Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Écrivain, dramaturge, révolutionnaire, médecin et scientifique allemand, malgré la taille modeste de son œuvre, il est devenu tardivement l'une des figures marquantes de la littérature allemande du XIXe siècle grâce à ses drames La mort de Danton et surtout Wojciech. Aujourd'hui, Jeanne Guéroux et Vincent Deck vous proposent le portrait de Georg Büchner, 1813-1837. C'est toute une vie d'un génie qui ne vieillit pas.
Quand le monde devient si noir qu'il faut tâtonner avec les mains et qu'on pense qu'il se défait comme une toile d'araignée, c'est comme quand quelque chose est et cependant n'est pas. Quand tout est sombre avec encore une lueur rouge à l'ouest, comme d'une forge. Non, c'est comme... Comment dire ? Par exemple...
Votre sec, il recommence à philosopher.
Monsieur le docteur, avez-vous déjà aperçu quelque chose de la nature double ? Quand le soleil est à midi, et que c'est comme si le monde prenait feu, une fois, une voix effrayante m'a parlé.
Wojciech, il a une aberration.
Georg Büchner ou l'autopsie du réel. Un documentaire de Jeanne Guéroux et Vincent Deck.
Büchner a beaucoup d'égards et une sorte de météorite dans la littérature allemande. Bien sûr, parce qu'il est mort très très jeune après avoir écrit des œuvres décisives, mais aussi parce que c'est un auteur qui a eu une vie presque romanesque en vérité. Il n'était pas seulement écrivain, il était aussi scientifique et il était aussi militant révolutionnaire, complètement impliqué dans les luttes politiques de son époque. Et l'enchevêtrement de ses convictions politiques dans sa vie réelle, qu'est-ce qui fait de ça comme un matériau à l'intérieur de ses œuvres, de son œuvre théâtrale par exemple.
Ce qui était de mieux.
Lorsque Georg Büchner écrit Wojciech à l'automne 1836, il a tout juste 23 ans. Quelques mois plus tard, la pièce est retrouvée inachevée dans sa chambre. Le jeune homme vient d'être emporté par le typhus. Tout à la fois scientifique, écrivain, philosophe et agitateur politique, Büchner n'est connu à sa mort que de ses proches, du publiciste Karl Gutzko et de quelques services de police allemands. Il faudra attendre des décennies pour qu'éditeurs et gens de théâtre s'emparent de son œuvre et perçoivent la modernité d'une écriture à ce point en avance sur son temps. Si Büchner est aujourd'hui considéré comme le météore de la littérature allemande, c'est que chacun des textes qu'il a laissés est un coup de maître. Dans son récit Lenz, aussi bien que dans ses trois pièces La mort de Danton, Léon Séléna et Wojciech, Büchner parvient, toujours avec un même regard scientifique, à rendre compte de la réalité du monde. Observateur attentif de son temps, il dissèque, il autopsie le moindre soubresaut de l'âme humaine, rejetant toute conception idéaliste et morale. Aujourd'hui, les mises en scène de son théâtre ne se comptent plus, aussi bien en Allemagne qu'en France et dans le monde. Sa clairvoyance et sa fulgurance en font pour la scène un défi sans cesse renouvelé et son actualité ne se dément pas. Pourtant, qui connaît vraiment l'existence foisonnante de ce démocrate convaincu, né en 1813 et victime du repli autoritaire d'un petit État allemand conservateur au lendemain de la défaite de Napoléon ?
Au moment de sa naissance, c'est les guerres napoléoniennes, donc l'Europe est tout à fait bouleversée. Et puis après la chute de Napoléon, l'Allemagne va être divisée en très petits états, dont il se moque dans Léon Séléna.
Jean-Louis Besson, professeur émérite en art du spectacle et traducteur.
Et donc lui, il naît en Hesse, la Hesse d'Amschatz, c'est un état qui est relativement grand, mais qui a à sa tête un grand-duc, La plupart des États allemands sont dirigés par des potentats. C'est un système monarchique, très dur, très répressif, plus ou moins selon les États, mais particulièrement répressif en Hesse.
C'est une époque qui est encore dominée par l'ombre de la Révolution française, dans l'ensemble de l'Europe, et par la figure de Napoléon.
Michael Werner, historien.
Napoléon a totalement transformé l'Allemagne. C'est lui qui a modernisé l'Allemagne. Et donc, disons, l'Europe a essayé de revenir à la situation antérieure à la Révolution et à Napoléon. Évidemment, ce n'était pas possible. Et en fait, c'était un conflit qui a traversé l'ensemble des pays de l'Europe. Pendant le congrès de Vienne, c'est en quelque sorte les anciennes puissances qui ont repris les choses en main. Et le point d'interrogation, c'était ce qui s'est passé en France. Parce que là aussi, il y a le retour des Bourbons, mais ensuite, il y a eu en 1830 la Révolution de Juillet. Et ça a de nouveau donné une impulsion nouvelle au mouvement politique, là aussi, dans l'ensemble de l'Europe.
C'est une famille bourgeoise. Son père est médecin. Il est aussi expert auprès des hôpitaux. Donc lui, il fait de très belles études. Il va dans le grand lycée d'Armstadt, le pédagogue, qui est réservé aux meilleurs élèves, mais aussi qui sont aussi les élèves des grandes familles. Et il est très doué en rhétorique. Il y a des concours de rhétorique entre les élèves, et c'est lui qui est chargé une année de faire le discours de fin d'année en latin selon les règles de la rhétorique. Et il les connaît très très bien. Cela dit, c'était une famille bourgeoise éclairée. Donc les questions politiques étaient certainement débattues. Mais ce n'est pas dans sa famille qu'il a découvert les mouvements révolutionnaires. C'est essentiellement en France. Parce que c'est le fils aîné. Donc le fils aîné reprend la profession, dans la bonne tradition bourgeoise, le fils aîné reprend la profession du père. Donc il doit faire des études de médecine. Or, l'université de Strasbourg est connue et célèbre pour la qualité de son enseignement en médecine. Donc le père envoie son fils à Strasbourg pour étudier la médecine. Pendant 2 ans. Mais il ne peut pas rester plus de 2 ans parce que, au bout de 2 ans, si on ne rentre pas dans le pays pour terminer ses études, et bien à ce moment-là, le diplôme n'est pas reconnu. Donc il est obligé de rentrer en Hesse pour continuer ses études à l'université de Gießen. Mais quand il arrive à Strasbourg, il va découvrir les mouvements républicains qui sont des mouvements clandestins qui luttent contre le pouvoir de Louis-Philippe, disant que la révolution de 1830 a été trahi par la bourgeoisie qui a pris le pouvoir à la place de ceux qui se sont révoltés. Et c'est à ce moment-là qu'il va développer sa conscience politique, c'est très clair.
Büchner, fin 1831, il s'est installé à Strasbourg et il a forcément été influencé par ce qui se passait en France.
Irène Bonneau, metteuse en scène et traductrice.
En Allemagne, le mouvement oppositionnel allemand à la plupart des petits royaumes qui formaient l'Allemagne, le mouvement oppositionnel allemand était encore constitué d'intellectuels qui réclamaient la liberté de la presse, la démocratie, éventuellement la République ou en tout cas des monarchies constitutionnelles. C'est-à-dire qu'il se battait pour un progrès au nom des libertés formelles. Büchner, s'installant à Strasbourg à l'automne 1831, s'est trouvé plongé dans la naissance finalement du mouvement ouvrier français, du mouvement ouvrier organisé. Son arrivée à Strasbourg a coïncidé avec la première révolte des canuts, des ouvriers des soieries lyonnaises. Son installation à Strasbourg a coïncidé avec le procès d'Auguste Blanqui, où Blanqui très clairement a dit que la question n'était pas les libertés formelles, la question c'était l'opposition entre les riches et les pauvres. Et que la définition du prolétariat et des prolétaires, c'était que les prolétaires, c'est ceux qui paient. Et je crois que tout ça a fait une impression très décisive à Büchner. C'est-à-dire qu'ensuite, il s'est retrouvé en avance par rapport à ses copains de lycée ou aux amis qui étaient restés en Allemagne. Büchner, lui, il était déjà complètement dans une perspective de lutte des classes. C'est en 1832 qu'apparaît le drapeau rouge, par exemple, en France, aux obsèques du général Lamarck. C'est dans ces années-là, les années 1830, qu'apparaît aussi le mot communisme. Donc, du coup, il était à la confluence de tout ça, et on sait par sa correspondance que, très vite, il a pensé que la seule possibilité, c'était la lutte violente du prolétariat contre les classes aisées. Bûche Hefner a eu une formation un peu particulière parce qu'il était fils de chirurgien à Darmstadt. Et aussi bien avec son père. Et ensuite, quand il était lui-même étudiant à Strasbourg, il a toujours pratiqué la dissection de cadavres, pratiquement chaque jour. Donc c'était quelqu'un qui avait un rapport à la créature humaine qui était lié à la matérialité du corps humain. Pour lui, rien de ce qui était humain, même dans les choses les plus basses et les plus médicales, rien ne lui était étranger. Et à la fois, ses meilleurs amis, et ça c'est très caractéristique de l'ambiance de Strasbourg à l'époque, ses meilleurs amis étaient étudiants à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, où là les cours se faisaient en langue allemande. Et donc il y avait un bizarre mélange chez lui, à la fois l'influence du luthéranisme allemand, de langue allemande, et du progrès des sciences naturelles, qui lui était plutôt du côté français. Et donc il mélangeait ces deux influences, et c'est vrai qu'il a développé comme ça une lucidité extrême sur la société des hommes, sur l'être humain, sur la sexualité. C'est-à-dire il était prêt à s'intéresser au moindre tressaillement de l'âme humaine. Il pouvait regarder un visage, le moindre mouvement du visage de pauvre paysanne qu'il aperçoit dans la forêt. Pour lui, ça pouvait constituer le début d'une œuvre d'art, le début de la poésie.
Il y a une lettre qui me touche beaucoup, où il raconte qu'il a été à un marché de Noël et qu'il a vu les enfants rêver devant des trucs que lui trouverait dérisoires et que ces enfants-là ne pouvaient pas s'acheter ces choses du marché de Noël.
Marie Potonnet, dramaturge.
Et il dit que ça l'a rendu très amer. Enfin, je pense que Büchner, c'est quelqu'un qui avance avec ce sentiment-là de l'injustice, enfin, le fait que tout le monde n'a pas accès à ce à quoi lui, il a accès. Et puis cette idée, effectivement, des rêves dérisoires de ceux qu'on appelle les petites gens.
Il passe 2 ans à Strasbourg dans le bonheur. Il est logé chez un pasteur, le pasteur Yeglet, et il se fiance secrètement avec la fille, Wilhelmine, qui sera manifestement le grand amour de sa vie. Son père était furieux quand il a appris cette relation parce qu'il aurait préféré que son fils épouse une fille de bonne famille. Une fille de pasteur, c'est quand même bien, mais ça n'était pas le niveau social qu'il espérait. Quand on lit la correspondance de Büchner avec cette jeune femme, avec sa fiancée, c'est des lettres qu'on aimerait recevoir. C'est d'une tendresse extraordinaire. Et il découvre aussi un pays qu'il ne connaît pas bien. Il va à des rencontres de mouvements révolutionnaires, des associations. Enfin, c'est vraiment une situation dont on peut imaginer qu'elle était pour lui tout à fait attirante, excitante. Enfin, qu'il était très heureux de passer ses 2 ans à Strasbourg.
Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas ce que Büchner exactement a fait quand il était étudiant à Strasbourg, parce que toutes ces activités, bien sûr, étaient clandestines. Mais je crois que dans le quartier de l'église Saint-Guillaume à Strasbourg, quartier populaire de Strasbourg, où il habitait à l'époque, juste à côté, il y a la manufacture des tabacs, qui était la plus grosse entreprise déjà industrielle de Strasbourg à l'époque. Et tout à côté, il y avait les casernes. Strasbourg était une ville frontière, et il y avait par exemple le 49e régiment d'infanterie, dont on sait qu'il y avait au moins 30-40 sous-officiers qui adhéraient aux idées blanquistes à l'époque. On sait aussi que c'était les étudiants en médecine à Strasbourg qui étaient les fers de lance des sociétés républicaines clandestines, et en particulier de la nouvelle organisation qu'avait fondée Blanqui, la Société des droits de l'homme et du citoyen. Et ce qui était original dans la Société des droits de l'homme et du citoyen en France, c'est que tout d'un coup, il n'y avait pas que des intellectuels. Avant, ces sociétés clandestines républicaines qui faisaient de l'agitation pour les idées républicaines, c'était surtout des étudiants, quelques professeurs, quelques journalistes, c'est-à-dire c'était des membres de la classe intellectuelle. Avec la Société des droits de l'homme, tout d'un coup, la composition change. Il y a aussi des artisans, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a un début de classe ouvrière qui commence à entrer dans ces organisations. Et ça, c'était une grande nouveauté, et Büchner l'a très très bien compris. Et à cause de tous ces éléments-là, moi je suis persuadée qu'il avait adhéré à la Société des droits de l'homme à Strasbourg quand il était étudiant. Et ensuite, quand il est rentré en Allemagne pour continuer ses études à Gießen, la première chose qu'il a faite, c'est de créer lui-même des sections de la Société des droits de l'homme à Gießen puis dans la ville de ses parents à Darmstadt.
C'est à contre-cœur que le 7 août 1833, Georg Büchner regagne son pays, rapportant de Strasbourg des positions politiques très radicales. Il quitte un foyer intellectuel de rayonnement européen pour la capitale assoupie d'une province allemande où sévit la réaction la plus sombre et la plus étouffante. Quelques mois plus tôt, un assaut mené contre les postes de police de Francfort par une cinquantaine d'étudiants révolutionnaires s'est soldé par un lourd échec. Les conjurés qui espéraient prendre le contrôle du Parlement confédéral ont été trahis et arrêtés. Büchner n'y a pas participé. Il est certes convaincu que le chemin vers la liberté et l'égalité ne peut faire l'économie du recours à la violence, mais il pense que le peuple allemand n'est pas encore prêt à lutter pour ses droits et que toute insurrection qui se passerait de la participation des masses populaires ne peut aboutir. C'est dans le but de soulever les paysans de Hesse qu'il rédige en juillet 1834, avec le concours du pasteur Friedrich Ludwig Weidig, un virulent pamphlet politique, Le Messager et Soi.
Ce qui était le problème de la Hesse, l'état de Hesse-Darmstadt, qui était son land d'origine, c'est que les paysans qui essayaient de survivre en Haute-Hesse étaient à la fois pressurés par les droits féodaux qui existaient toujours et par les impôts modernes que leur faisait payer le grand-duc de Hesse. Et ils se retrouvaient dans un état de survie perpétuelle, voire de famine. Cette région de Oberhessen était un des endroits les plus pauvres d'Allemagne. Ils arrivaient à survivre grâce aux pommes de terre. Pour les propriétaires nobles, la pomme de terre ne servait qu'à faire du schnaps, de l'eau de vie. Pour les très rares paysans aisés, elle servait à donner à manger aux cochons. Et les paysans pauvres, eux, n'avaient à manger que les pommes de terre, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas avoir de pain. Donc c'était un état d'extrême pauvreté et Büchner a très bien perçu ça, à savoir que ces paysans-là de Haute-Hesse s'étaient révoltés en 1830. Mais c'était une paysanne qui au fond ressemblait aux jacqueries du Moyen-Âge. Et Büchner savait qu'il n'y avait pas de liaison directe entre l'agitation républicaine menée par la classe bourgeoise et les révoltes paysannes au niveau des villages. Donc ils pensaient que les tentatives comme Francfort étaient vouées à l'échec. Et on a vu ensuite, pendant la rédaction du Messager et Soi, qu'il était du coup très en avance par rapport au mouvement oppositionnel allemand.
Cette feuille veut annoncer la vérité au pays et soi. Mais qui dit la vérité sera pendu. Il se peut même que celui qui lit la vérité soit puni par des juges parjures. Paix aux chaumières, guerre aux châteaux. En l'année 1834, la Bible a l'air de recevoir un démenti. Il semble que Dieu a créé les ouvriers et les paysans le cinquième jour, et les princes et les grands le sixième. Et que le Seigneur a dit à ces derniers, « Régnez sur tous les animaux qui rampent à la surface de la terre. » Et qu'il a rangé les paysans et les ouvriers parmi cette vermine. La vie des grands est un long dimanche. Ils habitent de belles maisons, ils portent d'élégants habits, ils ont de gras visages et parlent une langue à eux. Quant au peuple, il gît comme du fumier dans un champ. La vie du paysan est un long jour ouvrable. Sa sueur est le sel sur la table du riche. Le grand-duché de Hesse renferme 718 373 habitants qui donnent annuellement à l'État 6 363 364 florins en impôts directs, impôts indirects, domaines, droits réguliers, amendes, sources diverses. Cet argent est la dîme du peuple, tiré du corps du peuple. 700 000 êtres environ suent, gémissent et meurent de faim pour cela. Et c'est au nom de l'État que cet argent est extorqué.
C'est plutôt un texte pédagogique. C'est pas un appel à la révolution, mais c'est plutôt un appel à la réflexion. Avec derrière, évidemment, cette idée que la réflexion va amener à des mouvements révolutionnaires.
Mais il ne peut pas faire ça tout seul, avec ses deux petites sociétés, quelques amis, c'est pas possible. Donc il s'allie avec un pasteur qui s'appelle Valdé, et qui est, lui, depuis longtemps dans l'action révolutionnaire, et qui a déjà une revue révolutionnaire qui s'adresse plutôt à la bourgeoisie qu'à la paysannerie, mais ils se mettent d'accord pour écrire ensemble un libelle destiné aux paysans. C'est Büchner qui écrit le premier jet, et le pasteur Valdé revient derrière et reformule un certain nombre de choses en les atténuant en partie et surtout en mettant un certain nombre d'allusions à la Bible.
Le Messager et soi, c'est un texte étonnant parce qu'il repose sur deux choses qui ne paraissent pas aller forcément ensemble, c'est la fiscalité et la religion. Ce que met en avant Büchner, c'est une analyse très précise et même chiffrée de la pression fiscale, donc les inégalités criantes face à l'impôt des classes aisées et du prolétariat. Il en donne des chiffres très précis et en même temps, il emploie une façon d'écrire qui, au fond, est dans la tradition peut-être de la guerre des paysans qui avait eu lieu en Allemagne au début du XVIe siècle avec Thomas Münzer, c'est-à-dire une espèce de tradition de messianisme révolutionnaire qui montre que l'oppression du peuple est en contradiction avec les Écritures, que l'oppression du peuple est en contradiction avec ce que raconte la religion chrétienne et le protestantisme en particulier. Et c'est très intéressant parce que Büchner, je pense, lui-même était tout à fait athée. Et en même temps, il ne méprisait pas du tout la religion. Il pensait que la religion était fondamentale pour le peuple, pour le prolétariat allemand, et qu'il fallait parler la langue du peuple. C'est-à-dire qu'il pensait que la classe intellectuelle des villes en Allemagne était complètement coupée des réalités de la paysannerie et que les seules personnes qui étaient au contact réel dans les campagnes avec la pauvreté, c'était les pasteurs de village qui faisaient office aussi souvent d'instituteurs, de professeurs. Et les débuts du mouvement socialiste allemand, c'est venu de là. Mais ce projet a vite mal tourné, parce que Büchner s'est aperçu très vite, pendant l'été 1834, ils se sont aperçus très vite qu'il y avait des mouchards partout, qu'ils pouvaient être dénoncés à tout moment, que des étudiants qui croyaient être leurs amis allaient les dénoncer aux juges de l'université, qu'ils étaient sans cesse épiés. Ce qu'on sait, c'est que parmi ce groupe minuscule des conjurés qui étaient autour de Büchner, certains sont morts très jeunes. Le pasteur Weidisch a été arrêté. Il est mort dans des circonstances extrêmement suspectes en prison, puisqu'on l'a retrouvé. On a dit qu'il s'était suicidé, mais on l'a retrouvé égorgé. Et il a voulu écrire quelque chose sur le mur avec son propre sang. Donc ses amis ont pensé que c'était en vérité la police qui l'avait tué dans sa cellule. Beaucoup ont été arrêtés à cause des dénonciateurs, des mouchards. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ce tout petit nombre de gens, on en trouve après qui ont adhéré à ce qu'on a appelé la Ligue des Bannis, puis à la Ligue des Justes, c'est-à-dire les ancêtres immédiats de la Ligue des Communistes, pour laquelle Marx et Engels ont écrit le manifeste en 1848. C'est-à-dire qu'on peut dire que, même s'il n'y a pas eu évidemment de répercussions directes, le Messager et soi est un des éléments qui inaugure la tradition socialiste en Allemagne, à vrai dire, qui inaugure l'idée du communisme en Europe. Donc il y a eu une répercussion qui a été au-delà de la mort de Büchner, en fait, pour les générations suivantes.
Büchner doit s'enfuir, mais il ne s'enfuit pas tout de suite, il ne quitte pas tout de suite la Hesse, il se réfugie chez ses parents, et il reste quelques temps là, et c'est là qu'il emprunte à la bibliothèque le livre de Thiers sur la Révolution française, et il lit ce livre et il lit d'autres des mémoires sur la Révolution française, alors que ses parents lui disent « maintenant tu travailles » et qu'ils viennent vérifier que dans son bureau il est bien en train de faire de la médecine. En fait, sous les planches d'anatomie, il a glissé les textes sur la Révolution française. Donc il commence à travailler à la mort de Danton, mais il ne la finira qu'un peu plus tard, mais enfin il a pris de la documentation pour écrire sa pièce.
L'idée que j'ai de Büchner, si on peut être un peu prosaïque, c'est que c'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, quoi. Il y va. Il se protège pas forcément. Alors, bon, certains lui ont reproché, par exemple, d'avoir fui alors que ses amis étaient emprisonnés. Mais en même temps, ça changeait quoi s'il mourait en prison, enfin, ou s'il restait enfermé. Et donc, peut-être que ce rêve avorté, je dirais, a aussi influencé. Et il écrit Danton enfin, en même temps. Et dans Danton, il y a beaucoup cette idée d'une espèce de machinerie qu'on peut pas, enfin, de... Les choses s'emballent, la société avance d'une certaine manière, et on... voilà, c'est tout le problème de Danton, on n'arrive pas à l'arrêter, malgré tous ses rêves.
Combien de temps encore serons-nous sales et sanglants comme des enfants nouveau-nés ? Devrons-nous jouer avec des têtes ? Avoir des cercueils pour berceau ?
La mort de Danton, mise en scène de Jean Villard, Festival d'Avignon, 1948.
Il faut aller de l'avant ! Constituer un comité de clémence ! Rappeler les députés bannis !
La révolution est arrivée au stade de la réorganisation. Elle doit cesser pour que la République commence.
Dans nos principes politiques, le droit doit remplacer le devoir.
Le bien-être, la vertu, la légitime défense, le châtiment, chacun doit être en mesure de pouvoir affirmer sa personnalité et faire valoir sa nature. Qu'on soit bon ou méchant, instruit ou illettré, ridicule ou non, cela ne regarde pas l'État.
Nous sommes tous des fous. Et aucun n'a le droit d'imposer à autrui sa folie propre. Que chacun jouisse donc à sa guise, pourvu qu'il ne le fasse pas aux dépens d'un autre et qu'il ne trouble pas cet autre dans son bonheur personnel.
La forme de l'État doit être une tunique transparente qui colle au corps du peuple. Chaque tension de ses muscles, chaque pulsation de ses artères, chaque spasme nerveux doit s'y imprimer. Le corps peut être beau ou laid, nous ne sommes pas autorisés à lui tailler un habit de notre goût. À ceux qui veulent jeter un voile de nonne sur les épaules nues de cette adorable pécheresse, la France, nous donnerons sur les doigts.
Danton, tu mèneras l'attaque à la Convention.
Je mènerai, tu mèneras, il mènera si nous vivons jusque-là, disent les vieilles femmes.
Ce qui est très intéressant dans la mort de Danton, c'est que Büchner montre que, contrairement à ce qu'on imagine souvent, ce ne sont pas les grands hommes qui font l'histoire. C'est-à-dire la pièce ne repose pas sur un conflit Danton-Robespierre, par exemple. Ce qui est extrêmement étonnant dans la pièce, c'est ce que Büchner appelait lui-même les scènes avec le peuple. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des scènes intimistes où on voit les grands leaders de la Révolution, mais il y a aussi des scènes qui se passent dans les rues de Paris. Et où on comprend même plus comment c'était possible de faire ça au théâtre à l'époque, parce que Büchner emploie une forme d'écriture qui est plutôt faite pour le cinéma, à vrai dire. C'est-à-dire, on voit par exemple Danton et Camille Desmoulins qui se promènent dans les rues, et on les entend écouter les conversations des passants. C'est un procédé qui est d'une rare modernité pour une pièce qui a été écrite dans les années 1830. C'est-à-dire ils entendent que des fragments de ce que racontent les gens dans la rue. Et à partir de ces fragments, ils commentent la situation sociale de Paris. Et ça, c'est très étonnant parce que du coup, on sent dans la pièce que c'est le peuple de Paris, en vérité, qui est l'acteur principal de la mort de Danton. C'est le peuple de Paris qui pousse le comité de salut public, qui ne peut pas faire autrement, à éliminer les hébertistes, puis à éliminer les dantonistes. C'est-à-dire que le moteur de l'histoire, ce sont les classes sociales, et ce ne sont pas telle ou telle célébrité dont des écrivains idéalistes pourraient faire le portrait dans des biographies. Büchner montre déjà que, au fond, l'histoire, le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes.
Je ne veux pas aller plus loin.
En fait, l'enjeu, il est toujours le nôtre aujourd'hui, je pense. C'est comment les gens sont traversés par les événements historiques, sont traversés par la politique. Comment les petites histoires, et Büchner, peut-être parce qu'il était, il avait été étudiant en médecine, trouve qu'aucune petite histoire est inutile à raconter au théâtre. C'est-à-dire qu'il s'occupe des pulsions sexuelles, il s'occupe des maladies sexuelles. Il est beaucoup question de la syphilis, par exemple, dans la mort de Danton, de la prostitution. Comment toutes ces histoires-là, les histoires de couple, les histoires érotiques, les histoires familiales, les histoires d'amitié, sont tout d'un coup traversées de part en part par un énorme événement historique, politique, qui est la Révolution française. Et ce qu'il décrit, c'est l'enchevêtrement de ça, c'est-à-dire l'enchevêtrement de la petite et de la grande histoire, et comment les pulsions des individus sont aussi traversées par leur positionnement politique, par leur engagement. Et ça, c'est une chose qui est, je trouve, extrêmement moderne, qui est extrêmement lucide, cette espèce de mélange de pulsionnel et de politique.
Robespierre est devenu le dogme de la Révolution. Et de ce côté-là, rien à espérer. C'est pas nous qui avons fait la Révolution, c'est la Révolution qui nous a fait. D'ailleurs, je préfère être guillotiné que guillotineur. J'en ai assez.
Il y avait à l'époque en Allemagne, parmi les républicains, et aussi en France parmi les républicains, une grande admiration pour Robespierre, pour la Déclaration des droits de l'homme et pour la Révolution française en général. Or, il me semble que Büchner ne partage pas ce point de vue qui est général à l'époque, parce que après la Révolution française, les Allemands s'étaient quand même en grande partie éloignés, écartés, surtout après la Terreur, que ce soit Schiller, Hölderlin, enfin un certain nombre d'intellectuels et d'écrivains allemands qui avaient suivi la Révolution française, c'était quand même, avaient pris des distances. Mais dans les années 30, la Révolution française redevient un modèle. Et je crois que Büchner s'adresse à sa génération en disant « Faites attention, si nous faisons la Révolution française telle qu'elle s'est déroulée a eu telle et telle conséquence et il faudrait peut-être repenser les choses sur d'autres bases. » Et à ce moment-là, il y a un lien avec le messager et soi, avec le pamphlet adressé. C'est-à-dire il faut peut-être commencer par persuader le peuple du bien fondé d'une révolution. C'est comme s'il disait la révolution se fera, la misère est le levier qui fera que la révolution aura lieu, mais elle n'aura pas forcément lieu tout de suite et avec moi.
Je me souviens d'une interview avec le dramaturge est-allemand Heiner Müller où il disait que lui, ce qui l'intéressait chez Büchner, c'est qu'il avait l'impression de quelqu'un qui était né avec les paupières arrachées. C'est-à-dire, il disait, c'est quelqu'un qui regardait le monde sans jamais essayer de fermer les yeux. C'est comme si les parcs lui avaient arraché les paupières dès la naissance. Et c'est vrai que ça, c'est très frappant aussi chez Büchner, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait des opinions politiques et même qui était militant dans la vraie vie, mais qui, quand il écrivait, était capable finalement d'incendier ses propres positions, ses propres opinions politiques, pour montrer la réalité du monde. Il essayait d'appuyer là où ça fait mal. Il essayait presque d'écrire contre son camp, parce que je pense qu'il pensait que le théâtre ou la littérature n'était pas forcément une sorte de véhicule pour les idées de l'auteur, que c'était plus que ça, que c'était peut-être ce qui interrompt au contraire le discours politique.
C'était un cas de légitime défense. Il le fallait. L'homme en croix s'est rendu la tâche facile. Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il faut. Qui osera en finir avec la malédiction de ce « il faut » Qui a dit « il faut » Qu'est-ce qui en nous formique, ment, vol, tue ? Nous sommes des pantins manœuvrés par des forces inconnues, nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous ne sommes que les glaives avec lesquels les esprits combattent. Seulement, on ne voit pas les mains. À présent, je suis calme.
Büchner écrit La mort de Danton à Darmstadt en 5 semaines. Réfugié chez ses parents, il parle peu, mange peu, travaille avec acharnement, animé par un sentiment d'urgence. Il sait qu'à tout moment, la police peut l'arrêter. Fin février 1835, il envoie son manuscrit à l'éditeur Sauerländer à Francfort. Grâce au soutien du critique Karl Gutzko, proche de la jeune avant-garde littéraire allemande, le drame est publié à l'été 1835 dans une version expurgée de scènes trop audacieuses, touchant à la sexualité, la religion et la morale. Le drame est bien accueilli par les milieux littéraires progressistes. Mais Büchner n'est plus là pour suivre la réception de sa pièce, ni même pour percevoir les modestes honoraires que son éditeur lui envoie par la poste. Il est déjà sur le chemin de l'exil. Devant la recrudescence des poursuites, il regagne Strasbourg le 6 mars 1835. En moins de 2 ans, il écrira Lenz, Léon Séléna et Wojtek.
Et finalement, il y a un mandat d'arrêt qui est bel et bien lancé contre lui. et il est obligé de prendre la fuite. Et là, on voit qu'il y avait tout un système de passeurs pour pouvoir fuir la police allemande à partir de n'importe quelle ville allemande et pour arriver à Strasbourg. Et il est arrivé à Strasbourg où là aussi il a pu bénéficier de l'aide de la famille de sa fiancée, le pasteur Yeglé à Saint-Guillaume, où il a bénéficié de l'aide de ses professeurs de l'université de Strasbourg. Et donc il s'est retrouvé de l'autre côté de la frontière, mais dans une situation extrêmement précaire. Et donc l'idée, c'était d'arriver à écrire une thèse de sciences naturelles qui lui permettrait d'obtenir un poste à l'université pour arriver à gagner sa vie, parce que il n'avait pas d'argent. Alors, en survivant plus qu'en ne vivant, c'est-à-dire dans des conditions très précaires et très difficiles, il s'est mis à écrire une thèse de sciences naturelles sur le système nerveux du barbeau, qui était un poisson qu'on trouvait en abondance dans les rivières alsaciennes, donc qui coûtait pas cher, qu'il pouvait disséquer comme il voulait.
Ce qu'il étudie, c'est l'évolution du vivant, avec cette idée que toutes les espèces ont une origine commune. Voilà, une idée quand même qui est déjà exprimée à l'époque, et notamment à l'université de Strasbourg, où ceux qui sont influencés par la France, par Cuvier, et ceux qui sont inspirés par l'Allemagne ne sont pas entièrement d'accord. Mais il y a quand même toute une réflexion sur l'évolution du vivant. Et Büchner, il s'inscrit dans cette optique. Et il étudie les nerfs du barbeau en disant que si on arrive à mettre en place un lien entre les nerfs crâniens et les nerfs spinaux du barbeau, ces liens ils doivent exister dans toutes les espèces. Mais c'est plus facile sur les poissons de les observer. Donc il fait des observations sur les poissons, il dissèque des poissons et il essaie de voir quels sont... En fait, c'est intéressant, quels sont les liens entre le corps et la tête aussi, hein, au niveau nerveux, au niveau physiologique. Donc il fait ce travail qui est absolument remarquable. Pour l'époque, c'est absolument étonnant que quelqu'un ait pu écrire ce qu'il écrit.
Alors, il faut ajouter qu'il dépendait malgré tout des moyens financiers envoyés par la famille et le père a refusé de faire quoi que ce soit. Donc, il arrive à Strasbourg, il est extrêmement prudent, il ne va pas voir les réfugiés, il se tient tranquille pendant un certain temps, il obtient finalement une sorte de... pas de papier officiel, mais on le laisse résider à Strasbourg. Donc, il arrive à se faire un petit trou provisoire.
Il n'a pas un sou. Il traduit Victor Hugo pour gagner un peu d'argent. Donc, il doit bien se poser la question de savoir comment il va assurer sa survie. D'autant plus qu'il se fiance de manière officielle. Il envisage un mariage. Donc, il faut qu'il trouve un moyen de gagner sa vie. La littérature en est un, mais la mort de Danton ne lui a pas rapporté grand-chose. Mais par contre, il y a un concours de comédie qui est organisé parce que le genre de la comédie est en régression et l'éditeur veut relancer cette forme de théâtre. Et donc, il lance un concours de comédie. Et lui, il écrit Léonce et Léna pour, en espérant gagner ce concours de comédie qui est très bien doté, hein, c'est une somme importante. Malheureusement, son manuscrit arrive avec quelques jours de retard et donc il est refusé hors délai. Et parallèlement, il continue ses études.
S'il est au gré de votre Altesse le prince Léonce du royaume de Popo, et s'il est au gré de votre Altesse la princesse Léna du royaume de Pipi.
Léonce et Léna, c'est une comédie, la seule de Büchner. Je dirais que c'est comme des personnages qui sont dans une boîte à musique, des personnages de jeux d'échecs qui prendraient vie tout à coup. Donc c'est l'histoire d'un jeune prince, et son père a décidé de marier ce jeune prince qui refuse de se marier. Et le père a décidé de le marier avec la princesse Léna. Moi je dirais que Léonce et Léna, c'est des automates qui essayent de... Oui, c'est des petits personnages de boîte à musique qui essayent de se libérer de cette boîte à musique, et puis ils finissent quand même par faire ce qu'on attend d'eux.
C'est loin d'être une comédie au sens classique du terme.
Jacques Ozinski, metteur en scène.
Il y met toutes ses obsessions du moment. Donc ce personnage de Léonce qui est quand même très dépressif et très mélancolique.
Dans Léonce et Léna, il y a aussi un moment, il y a Léna qui dit qu'elle n'ose pas étendre les mains parce qu'elle se sent enfermée, elle est comme enfermée dans une petite chambre de miroir, et elle dit qu'elle a peur de casser ses miroirs et de se retrouver devant un mur nu. Et ça, c'est une question qui traverse aussi Danton. En fait, qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences, quoi ? C'est toujours cette question qui traverse Büchner aussi quand il décortique un barbeau. On est enfermé en soi-même, et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et c'est vrai que Léonce et Léna, c'est des petites marionnettes qui sont conscientes qu'il y a derrière quelque chose, mais ce quelque chose derrière, c'est pas forcément un monde agréable à vivre, c'est un mur nu, c'est affolant, donc peut-être qu'il vaut mieux rester une petite marionnette.
Büchner considère que les auteurs, notamment les auteurs dramatiques, jusque-là, ont donné de l'être humain une image complètement faussée. C'est-à-dire que la forme dramatique, la forme de la tragédie ou de la comédie, donne une image de l'homme qui relève plutôt de la marionnette que du vivant. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises. Dans La mort de Danton, Camille Desmoulins fait toute une tirade sur le théâtre en disant « on voit des pantins, mais on ne voit pas des êtres humains ». Et c'est là le lien entre les études de médecine et la littérature, c'est comprendre le vivant et non pas donner une image idéaliste de l'homme, ce que faisait le théâtre d'une certaine manière jusque-là.
Effectivement, je pense que c'est la démarche de Büchner qui se demande qu'est-ce qu'un homme et comment ça marche, les pensées. Qu'est-ce que c'est un cerveau, comment ça marche, à la fois scientifiquement, à la fois philosophiquement, et puis aussi au théâtre, il met des personnages devant lui et il essaye de comprendre qu'est-ce qu'un homme et comment ça marche. Et je dirais qu'il y a beaucoup de fous chez Büchner. Et je dirais que les fous, c'est ceux qui n'arrivent plus à... En fait, ils n'arrivent plus à ordonner leurs pensées par le langage, et donc ça les rend fous, parce que les pensées dépassent le langage, deviennent plus fortes que le langage.
Vers le soir, une peur étrange le prit. Lenz aurait aimé courir derrière le soleil. Comme les objets devenaient peu à peu plus ombreux, tout lui parut si peu réel, si hostile. La peur le prit comme les enfants qui dorment dans l'obscurité. Pour lui, ce fut comme s'il était aveugle. Et maintenant, elle grandissait. Le cauchemar de la folie s'assit à ses pieds. La pensée sans secours que tout n'était que son rêve s'ouvrit devant lui.
Il y a une récurrence du thème de la folie et de personnages qui ont des traits de démence, dans toute son œuvre en tout cas. Les principales, c'est Lenz. Cette très belle nouvelle raconte comment l'auteur dramatique Lenz, pour lequel il avait une réelle admiration, a séjourné en Alsace, dans le village de Waldersbach, où il a été recueilli par un pasteur, le pasteur Oberlin, pendant quelques semaines, et le pasteur avait décrit la montée de la folie chez ce jeune homme, qui faisait des actes quand même assez inquiétants, c'est-à-dire qu'il a voulu ressusciter une morte, il se plongeait en plein hiver dans la fontaine en récitant du Shakespeare, enfin il avait des actes qui étaient des actes démentiels, et à partir du rapport de ce pasteur, Büchner écrit une nouvelle dans laquelle on sent qu'il a une empathie profonde avec le personnage et qu'il comprend les motivations, entre guillemets, du personnage pour faire ce qu'il fait. Donc il a un intérêt profond pour tout ce qui relève de la démence.
Le matin suivant, par un temps pluvieux, trouble, il entra dans Strasbourg. Il semblait tout à fait raisonnable. Il faisait tout comme le faisaient les autres. Mais c'était en lui un vide effroyable. Il ne sentait plus d'angoisse, plus d'exigence. Son existence lui était un poids nécessaire. Ainsi, il continua à vivre.
Lenz, effectivement, c'est un rapport très intime. C'est peut-être ce qui nous approche le plus de Büchner. Et puis, il y a ce rapport à la folie. Comment je fais pour communiquer avec un autre? Il y a toujours cette... Moi, ce que je trouve magnifique dans Lenz, c'est la fin. C'est quand il dit... Donc, il part. Il est obligé de partir parce qu'il est trop anormal. Et Büchner dit, il fit tout comme les autres. Et ainsi, il continue à vivre. Et je dirais que moi, ce qui me parle chez Büchner, c'est cette question de comment on fait pour être soi tout en étant avec les autres.
Ce qui est assez étonnant, c'est cette lucidité sur les hommes de ce jeune homme de 22 ans. C'est assez incroyable.
Comment a-t-il pu faire tout cela en même temps? C'est-à-dire que quand il est à Strasbourg, il écrit sa thèse, c'est des recherches, il lit énormément. On a pu reconstituer une grande partie des livres auxquels il fait référence dans sa thèse ou qu'il met dans sa bibliographie, c'est extraordinaire. Et en plus de cela, il écrit Woyzeck, à partir d'un compte-rendu qui a été fait par un psychiatre sur Woyzeck qui a réellement existé, qui était un homme qui avait tué la femme avec qui il avait des relations, parce qu'elle avait couché avec d'autres hommes. C'était un miséreux, ce Woyzeck. Hein. C'était quelqu'un qui avait, pendant les guerres napoléoniennes, s'était engagé dans les armées, qui avait eu une formation de barbier, mais qui après avait été soldat pendant une bonne partie de sa vie. Et puis quand il y a eu la paix, il s'est retrouvé sans travail. Et il était un personnage errant et que cette femme recueillait de temps en temps auprès d'elle. Et qui finalement, il avait eu un procès et les avocats avait fait valoir qu'il n'était pas responsable de ses actes, qu'il avait des problèmes psychiques importants. Et ça a été une des premières fois qu'on a fait des expertises psychiatriques pour savoir si un criminel pouvait être considéré ou non comme responsable de ses actes. Büchner retrouve les rapports dans les papiers de son père. Donc c'était avant sa fuite. Hein, donc il avait déjà ce projet depuis longtemps en tête. Et à travers ces rapports, eh bien, il écrit la pièce « Woyzeck ».
Dans Woyzeck, il décrit vraiment la plèbe, des gens qui sont considérés comme moins que rien. C'est-à-dire un soldat qui n'est même pas un soldat, qui est plus ou moins l'homme à tout faire du bataillon. Un homme qui a tellement peu d'argent pour survivre qu'il est obligé de se vendre lui-même comme cobaye. On fait sur lui des expérimentations médicales. Alors c'est incroyable, quand Büchner a écrit ça dans les années 1830, il n'y avait même pas encore de grandes pièces sur un ouvrier, même pas de grandes pièces sur un artisan. Et là, Büchner prend comme personnage de tragédie, comme personnage principal, quelqu'un en fait qui est du matériau pour la médecine, qui est du matériau pour l'expérimentation, comme une sorte de souris de laboratoire, comme un barbeau un peu.
Woyzeck, la vertu! La vertu!
Mon capitaine, la vertu, je l'aperçois pas encore très bien. Avec nous, les gens simples, voyez-vous, ça n'a pas de vertu. C'est rien que la nature qui veut pour nous. Mais si j'étais un monsieur, et avec son chapeau, sa montre, sa redingote, et si je savais parler comme il faut, je voudrais bien être vertueux. Ça doit être quelque chose de beau que la vertu, hein, mon capitaine? Mais je suis un pauvre gars.
C'est bien, Woyzeck. Tu es un homme bien. Mais tu as toujours l'air si excité. Tu penses trop. Ça te mine. Vas-y maintenant. Et ne cours pas comme ça. Lentement, bien lentement, en descendant la rue.
Dans Woyzeck, on assiste à une espèce de dislocation de la langue, de la parole, sans doute parce que Büchner voulait montrer qu'il ne mettait plus en scène des virtuoses de la rhétorique comme les grands leaders de la Révolution française. Büchner montre dans Woyzeck la difficulté à arriver à parler de ces personnages, à arriver à dire ce qu'ils ressentent, à arriver même à se parler entre eux. Ils ont au-dessus d'eux des gens de l'armée, de la religion, qui eux les prennent pour des animaux au fond, les prennent pour des gens qui ne sont rien. Et Büchner donne la parole à ces personnages et du coup invente une langue qui n'a jamais été entendue jusque-là sur les scènes théâtrales.
Tous ces personnages ont un problème avec le langage. Qu'est-ce que c'est que le langage? Alors il y a ceux qui maîtrisent extrêmement bien le langage, comme Lens ou Danton, Mais Danton, par exemple, a du mal à... Enfin, refuse de parler un peu. Enfin, on le presse beaucoup de parler, ça pourrait sauver sa vie. Et lui, il dit « à quoi bon ?» tout le temps. Lens, qui manie très bien la parole, mais qui a toujours ce mal à parler, comme si son langage n'était pas le même que celui des autres, en tout cas comme si ses mots à lui n'étaient pas ceux des personnes qui l'entourent. Après, Wojciech, par exemple, c'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à parler, et les autres personnages passent leur temps à parler pour lui. Et il emploie un langage très particulier, c'est une langue hachée, avec des mots pas forcément orthodoxes. Et je pense parce que justement, toute la grande question pour lui, c'est qu'est-ce que c'est que le mot juste ? C'est sans doute ce qui fait la force de sa langue, parce qu'elle vient de la recherche de la parole juste.
D'un point de vue de metteur en scène, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on se rapproche de la vraie vie, de la vie, mais ce n'est pas du tout naturaliste, ce n'est pas du tout une écriture naturaliste. Et quelque part, je me suis toujours dit, parce que par exemple, c'est Alban Berg qui en a fait un opéra, quelque part, ça aurait pu être aussi un grand mélodrame, Wojciech. Ça aurait pu être du Puccini, quelque part. Et c'est du Berg. Et ça, c'est très intéressant, quoi, parce que je pense qu'il y a cette matière très moderne. Et ce qui est très intéressant, c'est que de par l'écriture, de par le caractère inachevé, du coup, quand on met en scène Wojciech, on fait plus que le mettre en scène. Ce sont des fragments, donc on ne dirait pas qu'on le réécrit, mais en tout cas, il y a une utopie ou une tentative de... un peu proche du cinéma d'ailleurs, comme un matériau, comme un scénario qu'on essaie de se réapproprier à chaque fois, à chaque mise en scène.
Il a inventé une forme dramatique. C'est-à-dire, au lieu de faire une action qui s'enchaîne de manière cohérente, eh bien, on montre des moments, des flashs dans la vie d'un personnage, sous une forme fragmentaire, décousue d'une certaine manière. C'est le premier à avoir écrit de cette façon-là.
Avec toutes les secousses picturales, musicales et d'écriture du XXe siècle, nous sommes devenus amoureux du fragment.
Jean-Pierre Vincent, metteur en scène, 1990.
Nous sentons que aucun discours ne peut englober la réalité du monde. Nous ne pouvons plus avoir de prétentions encyclopédiques ou de systèmes, de bâtir des systèmes qui aligneraient des règles qui engloberaient tous les phénomènes. Alors nous prenons les phénomènes un par un. Et on a la chance que l'œuvre majeure de Büchner ne soit pas finie, de la voir en morceaux. Alors, pour beaucoup, des fois, le jeu s'arrête à la façon d'en faire un puzzle. On peut effectivement trimballer les fragments de Wojciech de telle ou telle façon. Je crois que ce qui compte quand même, c'est de les organiser de façon à témoigner de cet éclatement, enfin de cette intuition formidable sur l'éclatement du monde, et en même temps de façon suffisamment dynamique pour produire de l'émotion. Parce que je crois que c'est un texte extrêmement émouvant. Voilà, la dernière expérience que j'en ai au conservatoire, alors là, on pleurait à chaudes larmes. Vous savez, quand vous avez ce fameux monologue de Wojciech qui s'appelle Barbier, il vient de se faire casser la gueule par son rival, le tambour-major. Il est ivre-mort. Et il répète à plusieurs reprises, enfin, il a un discours qui dit à peu près. Alors, qu'est-ce que l'homme ? Poussière, sable, pourriture. Qu'est-ce que la nature ? Poussière, sable, pourriture. Mais les pauvres hommes, et moi, à chaque fois que je dis ça, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule parce qu'il rejoint d'une manière extrêmement ténue, pauvre comme une pensée clocharde, ce sentiment que la vie est accrochée très faiblement à la branche, qu'il y a deux événements principaux dans la vie, qui sont la naissance et la mort, que le reste n'est constitué que d'anecdotes qui nous intéressent. Mais on est poussière, sable et pourriture. Et pourtant, entre les deux moments où on est vraiment poussière, sable et pourriture, il faut se démerder.
Nous avons beau temps, mon capitaine. Voyez-vous ce ciel, si beau, si décidément lourd, on pourrait avoir envie d'y enfoncer une poutre et de s'y pendre.
Qui a eu une très grande importance sur toute la génération des auteurs allemands du début du XXe siècle, en particulier sur la génération de l'expressionnisme. On sent vraiment l'influence de Wojtek dans la brutalité, dans la rapidité, dans la plasticité de la langue, aussi dans le fait de s'emparer de thèmes dont on ne serait pas emparé jusque-là, c'est-à-dire sans doute sans Wojtek, il n'y aurait pas les premières pièces de Brecht, il n'y aurait pas les pièces de Ernst Stoller non plus. Et c'est évident que le théâtre du 19e siècle, à l'époque où il vivait, vers 1830, était très en deçà de ce que pouvait apporter son écriture. On voit bien que ces pièces sont complètement sur une autre planète, qu'elles sont beaucoup plus proches des écritures du 20e, 21e siècle que de ses contemporains.
Alors qu'il écrit Wojtek et retravaille sa pièce Léon et Léna, Büchner obtient un poste à l'université de Zurich à l'automne 1836. La voie est désormais libre pour enseigner. Au lendemain de son 23e anniversaire, le jeune professeur s'installe en Suisse. « Il y a des gens qui me prédisent un avenir brillant. Je n'ai rien là contre », écrit-il à ses parents.
Il a pu passer sa thèse et il a obtenu un poste à Zurich, il y avait une concentration extrême de réfugiés allemands à l'université de Zurich aussi, parce que Zurich, comme Strasbourg, servait en fait d'antichambre au mouvement oppositionnel allemand. Et il a eu le temps d'enseigner à Zurich seulement pendant quelques mois. Apparemment, il avait très 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 peu d'élèves, peut-être deux ou trois. Et il espérait gagner suffisamment sa vie pour faire venir sa fiancée et pour se marier.
Il gagne très peu d'argent. C'est les étudiants qui payent les cours. Mais il continue à disséquer des poissons. Et il y a une épidémie de typhus à Zurich à ce moment-là. Et c'est particulièrement dangereux de manipuler des poissons quand il y a une épidémie de typhus. Et c'est en manipulant les poissons qu'il est contaminé. Il y a une fièvre qui s'empare de lui, c'est le typhus. Et il meurt en quelques jours.
Mesdames, messieurs, maintenant, rentrez chez vous.
Il a été enterré à Zurich, d'ailleurs, c'est très impressionnant. On dit que 250 personnes étaient présentes à l'enterrement. Toute l'université, les professeurs, les étudiants.
Mais n'oubliez ni vos discours, ni vos sermons, ni vos poèmes. Car demain, en toute tranquillité et quiétude, on reprend tout de zéro et on recommence la plaisanterie. Au revoir.
Georg Büchner ou l'autopsie du réel. Avec Irène Bonneau, Jean-Louis Besson, Michael Werner, Marie Potonnet et Jacques Osinski. Léon Selena, Lenz, Wojtek, mise en scène de Jacques Osinski. La mort de Danton, mise en scène de Jean Villard, Festival d'Avignon, 1948. Le messager et soi, lu par Roger Blin, 1962. Archivina, Véronique Jolivet. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Jeanne Guérou, réalisé par Vincent Deck.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. La page du site est préparée et enrichie par Sylvia Favre, Elna Freys et Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.